L'histoire est le domaine de la mémoire. Depuis Hérodote, l'historien est non seulement observateur, mais aussi juge des informations recueillies, pour raconter une version, pas forcément la seule, pas forcément la véritable version, mais une version vraisemblable du passé. L'histoire est aussi le domaine de l'oubli. On oublie tout ce qu'on n'estime pas, à titre personnel ou collectif, comme étant digne d'être retenu. On oublie aussi ce que l'on condamne à l'oubli. Les livres d'histoire sont tentés de présences dont on a tenté d'oublier le nom ou le visage pour en retenir seulement le crime, la condamnation, la damnatio memoriae. Parfois, la chute est spectaculaire et les historiens se plaisent à détailler le retournement du destin, qu'on appelle péripétia en grec, et la versatilité de la foule pour montrer la fragilité de l'humain, anthropine aesthetineia. Comme l'écrivait Cassius Dion, l'historien grec de Rome dont on parle aujourd'hui, avec une équipe de chercheuses coordonnée par Marie Platon, professeur agrégé au lycée Saint-Sernin de Toulouse, docteur en études grecques de l'université Toulouse de Jean Jaurès. Les humanités dans le texte, un podcast de l'École normale supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Marie Platon, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié un dossier Odysseum consacré à la chute de ces gens, selon Cassius Dion. Cassius Dion et ces gens ne sont pas des noms familiers de tous. Est-ce que vous pourriez nous les présenter parce qu'ils vont être les protagonistes principaux de ce podcast?
Bien sûr. Ces gens est le préfet du prétoire de Tibère. Nous sommes au tout début du 1er siècle de notre ère. Il est le préfet du prétoire, c'est-à-dire le commandant de la garde prétorienne chargée d'assurer la protection de l'empereur. C'est donc une fonction militaire. Ces gens se montrent vraiment très efficaces dans l'exercice de ce commandement et il se rend bien vite indispensable auprès de Tibère. Il va même lui sauver la vie alors que le plafond de la grotte qui servait de salon à Tibère dans sa villa de campagne s'effondre, donc faisant un rempart de son corps pour sauver l'empereur. Mais si l'on en croit les historiens antiques et Cassius Dion en particulier, l'ambition de ces gens était si grande, elle était telle qu'ils n'hésitent pas à éliminer de façon assez brutale tout ce qu'ils considèrent comme des obstacles, quitte à s'attaquer à l'entourage même de l'empereur, et en particulier à Drusus, qui est le fils de Tibère, que ces gens vont faire empoisonner avec la complicité de la femme de ce dernier. Et lorsqu'en 26, après Jésus-Christ, Tibère, qui est de plus en plus vieux, de plus en plus misanthrope, choisit de quitter Rome définitivement et de s'installer d'abord en Campanie, ensuite sur l'île de Capri, ces gens lui restent à Rome et va servir de relais à Tibère. Et peut-être que c'est cela qui va contribuer à aiguiser l'appétit de pouvoir de ces gens, puisqu'il se met à convoiter la succession de Tibère, peut-être même sa place. Et Tibère va finir par soupçonner son homme de confiance de conspirer contre lui. Il va échafauder tout un plan pour l'éliminer en 31 après Jésus-Christ.
Cassius Dion maintenant.
Cassius Dion est un homme politique romain, sénateur romain, même consul en 229. Il est historien de Rome, mais d'expression grecque. Alors, écrire l'histoire de Rome en grec, c'est une tradition finalement assez ancienne à Rome. Les premiers auteurs d'annales, notamment Fabius Pictor, qui est considéré comme le plus ancien historien romain, on est au 3e siècle avant Jésus-Christ, écrivaient en grec. Donc, il y a des historiens grecs de Rome. On en connaît d'autres. On connaît Polybe, Denis d'Halicarnasse, Appien, Arien, etc.
Très bien, je crois qu'on a les éléments suffisants pour pouvoir comprendre le texte que vous avez choisi pour nous. Donc non seulement vous l'avez choisi, mais c'est vous qui l'avez traduit aussi.
Oui,
vous l'avez
tout
traduit
à fait.
Dans votre thèse.
Oui.
Donc on peut trouver des éléments plus généraux de ce texte, d'autres textes d'ailleurs que vous avez traduits, de l'histoire romaine de Cassius Dion. C'est accessible en ligne, la thèse?
Absolument, ma thèse est accessible en ligne, oui. C'est
voilà.
une édition critique, une traduction et un commentaire des livres 57 et 58 de l'histoire romaine de Cassius Dion.
Enta de kai malista antisten anthropinen asteneian kataiden oste medamos fusastai. Ongar te eo Pantes os kai kreto sfon onta eisto bouleterion parepempsan, touton tote esto oikema os medenos beltio katesuron, kai on stefanon proteron polon exiun, tout autoté desma perietesan.
C'est là surtout qu'on put se convaincre de la fragilité humaine, afin de ne jamais s'enorgueillir de rien. Cet homme que tous, à l'aube, avaient accompagné au Sénat comme leur chef, maintenant, il le traînait au cachot comme le dernier des misérables. Et lui, qu'il jugeait auparavant digne de multiples couronnes, c'est désormais de chaînes qu'il le saignait.
Kai auto, kai odemos, prospipton, polamen, epitois apololosin, upotu, epeboa, pollade, kai epitois elpisteisin, episcopte. Tas te eikonas autu, passas katebalon, kai katekopton, kai katesuron, os kai oton ekeinon aikizomenoi, kai uto teates on, peisestai emelen egigdetu.
Et le peuple aussi, se jetant sur lui, se répandait en reproches pour les morts qu'il avait causés, et en raillerie contre les espoirs qu'il avait nourris. Il renversait ses images, les mettait en pièces et les traînait à terre, comme s'il maltraitait l'homme lui-même. Ainsi, ce dernier devenait le spectateur des outrages qui l'attendaient. Alors voilà, on a les faits dont on parlait à l'instant, des faits qui sont assez violents. C'est un véritable lynchage auquel on est en train d'assister en réalité. Alors peut-être pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces faits dont on sent la texture, mais finalement on a un tout petit épisode. Dans quelle séquence ils s'inscrivent ?
Alors c'est une séquence, un épisode qui fait suite au récit d'un piège, d'une sorte de souricière qui est mise en place par l'empereur Tibère pour se débarrasser de ces gens. Le souci, c'est que ces gens est devenu très, très puissant, c'est presque un empereur bis, et qu'il contrôle la garde prétorienne, donc des troupes armées qui sont les seules autorisées à stationner dans Rome, et qu'il est donc difficile pour Tibère de s'attaquer frontalement à ces gens. Il va donc échafauder un plan qui consiste à attirer son préfet du prétoire au Sénat pour une séance de nuit, avec la promesse de lui octroyer la puissance tribunicienne qui ferait véritablement de lui un casier égal de l'empereur. Normalement, on n'entre pas armé dans la curie, là où siège le Sénat. Donc, du coup, ces gens vont congédier son escorte armée et entrer dans le Sénat en espérant ressortir évidemment plus puissant. Et c'est là que tout va se jouer, puisque Tibère n'est pas présent, il est sur l'île de Capri, mais il fait lire une longue lettre par les consuls, lettre qui se fait très, très accusatoire pour ces gens et débouche en fait sur la mise en accusation de ces gens. Les partisans, les relais de ces gens au Sénat vont l'abandonner petit à petit, et ces gens vont être arrêtés et amenés en prison. Et donc c'est là que prend place la séquence qui est décrite ici.
On imagine que Tibère avait pris soin d'écrire à certains des sénateurs ou des consuls qui étaient présents.
Il avait écrit, oui, tout à fait. Il s'est assuré du soutien aussi des vigiles de Rome, une sorte de police, pour qu'ils remplacent les prétoriens. Les prétoriens avaient peur qu'ils soient encore trop fidèles à leur chef, à ces gens. Donc.
Ces gens est accusé d'être un tyran. Dans le texte, Cassius Dion mentionne le fait qu'il aurait causé de nombreuses morts. Je crois qu'à d'autres moments, il fait de lui un manipulateur. Est-ce une légende noire que Cassius Dion alimente ici, ou s'agit-il de la réalité ? Est-ce que vous pouvez nous aider à débrouiller l'histoire de la légende ?
Oui, alors l'histoire, elle est souvent écrite par les vainqueurs, et finalement, en ce qui concerne ces gens, on n'a pratiquement qu'une seule version qui est très, très négative. On a vraiment peu de témoignages positifs sur ces gens. En fait, à ma connaissance, il n'y en a qu'un seul, c'est celui de Velleius Paterculus, qui est un historien contemporain de Tibère et ses gens, qui se montre vraiment très, très déférent vis-à-vis du pouvoir de Tibère et de ses gens, mais qui est mort avant de voir la disgrâce de ses gens. Donc ces gens, effectivement, à mauvaise presse chez les historiens romains. Dion Cassius le décrit vraiment comme un arriviste qui utilise son pouvoir de séduction pour parvenir à ses fins. Il séduit au sens propre Livilla, l'épouse de Drusus, le fils de Tibère, et il va s'en servir pour atteindre son mari. Il séduit l'empereur lui-même, qui va en faire son homme de confiance, malgré son tempérament assez méfiant. Hein. Ces gens arrivent à séduire une partie des sénateurs et des chevaliers de haut rang, qui ne cessent de lui voter des honneurs absolument extraordinaires, de lui ériger des statues à égalité avec l'empereur, jusqu'au brutal retournement de situation du 18 octobre 31. Alors, il y a quelque chose d'intemporel sans doute, hein, puisque hier comme aujourd'hui, la conquête et l'exercice du pouvoir reposent en grande partie sur la séduction, qui est peut-être plus efficace que l'emploi de la force. Cela dit, il y a les deux facettes chez ces gens. Hein. Il séduit, mais en même temps, il fait peur parce qu'il est puissant, parce qu'il commande la garde prétorienne.
Je me tourne maintenant vers Chloé Damé, qui est autour de la table avec nous. Chloé Damé est doctorante en archéologie romaine à l'université Rennes 2 et Sorbonne Université. Alors, on vient d'assister à la disparition violente et tragique de ces gens, de sa femme, de sa famille, lui-même ayant causé la mort du mari de son amante, pour rien apparemment, puisque son plan a échoué. Donc, tous ces gens sont morts, la mort laisse place à la mémoire ou à l'oubli. Que reste-t-il quand on a condamné la mémoire d'une personne ? C'est ce que fait Tibère juste après avoir exécuté ces gens. Quelles sont les traces restant de ces gens ?
Alors, pour répondre à ces questions, en effet, la condamnation de la mémoire engendre la précipitation dans l'oubli de la personnalité qui en est touchée. Et pour cela, alors on retrouve très souvent le nom du damnatus qui est effacé. En principe, des inscriptions monumentales, des archives et même parfois, on le sait, des monnaies. On connaît, pour le cas de ces gens, une monnaie qui provient d'Espagne et qui est conservée à Rome, sur laquelle son nom et la mention de son consulat ont été effacées. Il s'agit d'ailleurs du témoignage le plus ancien de damnatio memoriae numismatique, c'est-à-dire qui est propre à la monnaie de la période impériale.
Oui, alors c'est assez impressionnant. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ces as, ces monnaies dont vous nous parlez ? Parce que j'ai vu sur le dossier Odysseum que vous avez proposé les images. Et en fait, les inscriptions autour de l'as, d'un côté donc, du nom de Tibère ou d'Auguste, enfin, de l'empereur, de l'autre, bah, celui d'avant de ces gens, elles sont en haut relief, elles émergent de la surface. Et ces gens, son nom a été effacé, on imagine martelé pour effacer ces hauts reliefs. Je ne sais pas trop comment ils ont fait ça.
Tout à fait, à base d'outils très simples, des ciseaux, des burins. Il s'agissait seulement d'effacer son nom. Après, une monnaie de très petit format, donc il a fallu être assez précieux, précautionneux, en tout cas, dans ce geste, dans cette action. Et ce qui est intéressant, c'est que la monnaie a tout de même continué à circuler. Donc on a laissé, au vu et au su de tous, qu'on avait effacé la mémoire de ces gens qui étaient extrêmement proches de Tibère et du pouvoir, s'il était d'ailleurs sur la même monnaie. Donc voilà pour les inscriptions. Sinon, oui, les images, les effigies de ces personnalités peuvent être aussi, peuvent faire l'objet de destruction. On les connaît bien pour ces gens, si on s'appuie sur l'exemple de cette personnalité. Alors aucune de ces sculptures, aucune de ces figures, de ces portraits ne nous est parvenue avec certitude. Nous savons cependant par les auteurs anciens que grand nombre des portraits du préfet étaient installés dans l'espace public et donc ont été retirés et détruits, hein, suite à sa condamnation, voire même légèrement avant, que ce soit à Rome ou dans tout l'Empire. Les statues en bronze étaient refondues, d'ailleurs de manière fortement dénigrante, puisque le métal servit, nous dit Juvénal, à la fabrication de poêles, à frire et de pichets. Donc les textes littéraires sont très éloquents, hein, à ce sujet de la destruction. Nous l'avons vu avec Cassius, avec des extraits que Marie nous a lus, puis donc là avec Juvénal. Et on a encore une fois tout le paradoxe du phénomène de cette damnatio qui ressort. Ce phénomène a pour vocation de précipiter le sujet dans l'oubli, d'oublier sa mémoire, d'effacer sa mémoire. Or, la violence des événements, tous les mouvements de foule et l'implication du peuple qui a été maintes fois narrée, l'inscrit définitivement dans l'histoire et dans sa postérité.
On voit qu'il y a une intention délibérée de la part de l'empereur d'éliminer un personnage et d'effacer sa mémoire. Comment en archéologie vous vous confrontez à ces faits, à ces intentions politiques ? Peut-on parler d'une archéologie de l'oubli ?
Alors en effet, pour nous les archéologues, l'oubli évidemment nous intéresse et il se manifeste sous diverses formes. Une des formes de cet oubli va être l'effacement de la mémoire figurée, la mémoire inscrite du damnatus. Donc cet effacement passe par plusieurs gestes que l'on peut tenter de retracer, hein, si on reste sur cet oubli de la mémoire véritablement. Alors pour le cas de ces gens, le texte de Cassius nous narre de façon extrêmement saisissante la violence spontanée des Romains envers les images de ces gens. Lorsque le Sénat délibérait, hein, on le sait. Le texte mentionne d'ailleurs trois modalités de destruction. L'auteur évoque d'abord la lacération, qui renvoie, on le pense, à la détérioration de portraits peints. Puis, l'auteur évoque le basculement des statues, qui est précisé par les verbes « il tirait de force » et « il jetait à bas ». Donc on imagine la population, sûrement par l'action de cordes, renverser les portraits sculptés d'une base ou de l'élévation des bâtiments, hein, que les sculptures ornaient. Donc l'image subit des destructions parfois totales. On l'a vu avec les statues en bronze qui sont refondues, ce qui est attesté pour ces gens par les textes de Juvénal. Mais les sculptures peuvent également faire l'objet de violences, de comportements impulsifs, hein, ce que narre également Cassius. Et plus généralement, à l'échelle de l'Empire, à l'échelle chronologique de l'Empire, nous avons trouvé une foule de restes archéologiques qui illustrent des mutilations, cette fois partielles. C'est-à-dire que l'acharnement, les dégradations vont être ciblées, précises, sur la figure, on retrouve souvent le nez, parfois les yeux qui sont burinés. Le visage peut également être balafré. Et en dehors de ces atteintes à la figure du damnatus, des actions plus soignées permettent de transformer le portrait par une retaille au profit d'une autre personnalité. Donc on va effacer la mémoire figurée d'un personnage en se servant de la symbolique du portrait pour représenter quelqu'un d'autre et donc effacer pour toujours en fait, les traits de la personne initiale. Pour conclure sur cette réponse un peu longue, il s'agit donc à la fois pour l'archéologue, mais aussi pour l'historien, pour l'épigraphiste, qui souhaite étudier toutes les mesures prises pour effacer la mémoire d'une personne. Il faut être attentif à tout type de sources anciennes, hein, même celles détruites, et donc les croiser pour parvenir à un discours le plus complet possible.
Les humanités dans le texte. Un podcast de l'École normale supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Dernière intervenante de ce podcast et qui était aussi une des autrices du dossier Odysseum consacré à la chute de ces gens, Mathilde Larère, maître de conférence en histoire à l'université Gustave Eiffel. Bonjour Mathilde Larère.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qu'une 19e-iste, spécialiste des mouvements révolutionnaires, vient faire dans un dossier consacré à la chute de ces gens qui raconte des faits datant d'il y a environ 2000 ans?
Oui, j'étais un peu l'intruse, mais je remercie Marie de m'avoir conviée parce que c'était vraiment très intéressant. En fait, Marie m'a demandé, parce qu'au cœur du projet, il y avait un déboulonnage, une destruction d'image. Or, la question de l'iconoclasme révolutionnaire est très travaillée par les historiens et historiennes qui travaillent sur les mouvements révolutionnaires, même si le spécialiste, c'est Emmanuel Furex, hein, qui a écrit L'œil blessé sur toutes ces questions. Mais c'est vrai que voilà, tous ceux qui travaillent sur ces mouvements, on le croise. Et de fait, les révolutions s'accompagnent de ce type de déboulonnage, de abîmage de on lacère les images, etc. Et ça, de toutes les révolutions. C'est-à-dire que lors de la révolution américaine, 1775, les patriotes britanniques, donc des colonies d'Amérique du Nord, font tomber la statue de George III. Les révolutionnaires français ont ensuite enlevé les différentes statues des rois d'Ancien Régime et enlevé les armoiries de la noblesse qui peuplaient l'espace public à Paris. Si on saute un peu dans le temps, lors de la chute de l'Empire et de la proclamation de la République le 4 septembre 1870, des statues de Napoléon qui étaient dans les mairies, dans certains cas, vont être mises en prison par la foule, dans d'autres, comme la statue qui était à Bordeaux sur une des allées, est carrément jetée dans le fleuve. Donc, voilà. Et on retrouve ça par la suite, les statues du tsar renversées lors de la révolution de février 17. Donc voilà, c'est très fréquent dans les mouvements révolutionnaires. Cela dit, ce n'est pas du tout propre aux mouvements révolutionnaires. En fait, les mouvements contre-révolutionnaires déboulonnent exactement de la même façon. C'est-à-dire que Napoléon, quand il arrive aux Tuileries, quand il reprend le palais après son coup d'État, il fait effacer, il martèle tous les bonnets phrygiens qui avaient été gravés sur les murs des Tuileries. Il enlève les statues de la déesse de la liberté pour mettre à la place sa statue à lui, tout simplement.
Et alors, que peut faire l'historien, que peut dire l'historien quand on le sollicite comme ça dans les médias, dans des contextes un petit peu en ébullition, au moment d'un déboulonnage de statues ou d'une dégradation d'œuvres d'art dans l'espace public?
Alors, il doit faire exactement l'inverse de Dion Cassius. C'est-à-dire qu'il ne doit pas juger. On n'est absolument pas pour juger, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour condamner ni pour applaudir. Et c'est vrai que là, il peut y avoir une difficulté quand on est par ailleurs, on est tous historiens et historiennes situés politiquement, ce qui fait que les historiens et historiennes qui ont été consultés au moment de tous ces déboulonnages après la mort de George Floyd, pour certains, étaient dans la condamnation. Il y a une tribune d'historiens qui se scandalisaient de cette chute des statues, et d'autres... J'ai essayé de ne pas le faire, du moins pas quand je m'exprimais en tant qu'historienne, ce qui ne m'empêche pas par ailleurs de m'exprimer comme citoyenne, et qui disait oh, « ça va, elles sont moches, de toute façon ces statues, puis c'est un passé esclavagiste, colonial, dont on n'a pas spécialement à être fier. Bon. » Maintenant, quand on intervient vraiment en historien, en historienne, notre travail d'abord, c'est de réinsérer ces actes violents de déboulonnage, de violence matérielle. Par ailleurs, personne ne meurt. Colson, il est mort, mais il y a longtemps. Quoi. Et de les réinsérer dans cette histoire longue pour l'expliquer, pour montrer ce qui se joue, pour voir que on n'est pas dans une espèce d'immédiateté, on n'a pas le nez dans le guidon de l'histoire immédiate, mais qu'on s'inscrit dans une temporalité beaucoup plus longue. Résultat de recontextualiser, expliquer qu'est-ce qui se joue. Et je pense qu'un des derniers rôles, et ce que j'ai essayé de faire dans mes interventions publiques sur ces moments de déboulonnage, c'est de dire, là, on est là à pleurer sur la statue d'un esclavagiste qui tombe, et on parle au mieux de atteinte à la mémoire, au pire, nous allions détruire l'histoire, effacer l'histoire en rejetant une statue dans un port. Les plus effacés, les plus oubliés de la mémoire et de l'histoire ne sont pas vraiment les esclavagistes, mais plutôt les esclaves, ne sont pas vraiment les grands hommes et plutôt les petites femmes, et qu'en fait, nous vivons dans une mise en récit qu'on retrouve parfois dans les programmes scolaires, ce qui pose un certain nombre de problèmes, mais dans l'espace public, c'est encore plus fort, dans les noms que l'on donne à nos rues, à nos places, à nos stations de métro, puisque là, nous sommes à Paris, dominent les hommes, les vainqueurs, ce que disait Marie tout à l'heure, c'est-à-dire des grands hommes, socialement en haut de la cordée, blancs dans les rapports de domination de classe, et que les vrais oubliés, c'est tous les autres, c'est tous ceux dont Chloé retrouve les objets. C'est les femmes, c'est les petites gens, c'est ceux qui utilisent des pots en terre, et eux, elles sont où, leurs statues? Évidemment, on ne peut pas les déboulonner puisqu'elles n'y sont pas.
Pigeon s'est posé sur l'épaule galonnée du maréchal de France. et il a décoré la statue dressée d'une gastrique offense. Maréchaux assassins, sur vos bustes d'airain, vos poitrines superbes, vos médailles ne sont que fientes de pigeons, de la merde. Un enfant est venu au pied de la statue du maréchal de France. Une envie naturelle l'a fait pisser contre elle, mais en toute innocence. Maréchaux assassin, le môme, mine de rien, a joliment vengé les enfants et les mères que dans vos sales guerres vous avez massacrés.
Pour conclure ce podcast en forme de chronique de la chute de ces gens, nous revenons avec Marie Platon, notre guide en cette période troublée de la fin du règne de Tibère. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cet épisode de la mise à mort de ces gens ?
Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que le méchant n'est peut-être pas celui qu'on croit. Ces gens y apparaissent ici comme une sorte de victime expiatoire, pour laquelle on peut même éprouver une forme de pitié, d'empathie, malgré tous les crimes dont il a pu se rendre coupable avant. Et finalement, dans cet épisode-là, ceux qui ont le mauvais rôle, ce sont ses anciens partisans. C'est la foule des adulateurs. Et cela, finalement, peut avoir une résonance très, très actuelle, parce que cela peut nous conduire à réfléchir à notre propre attitude à l'heure de ce qu'on appelle la cancel culture. Parce que, par exemple, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à détruire ou à effacer lorsqu'on choisit de boycotter une personnalité publique que jusque-là, on appréciait, que l'on suivait sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'on cherche seulement à effacer la réputation, l'honneur de cette personne parce qu'elle nous a déçus, parce qu'on la juge indigne de sa célébrité ? Ou est-ce qu'on ne cherche pas aussi à effacer le souvenir de nos propres erreurs, errements, de nos compromissions, un petit peu comme les partisans de ces gens qui ne veulent pas être entraînés dans la chute de leur idole ?
Est-ce que ce n'est pas aussi un peu opportuniste, dans le sens où on va dans le sens du vent de l'histoire ?
Ah, c'est complètement opportuniste. Hein. On pourrait dire que c'est... Alors, ils ne retournent pas leur veste, mais leur toge, les partisans de ces gens.
C'est ça. Eh ben, on va finir sur ce retournement de toge. Il y a des fins plus glorieuses, mais bon, c'est comme ça. C'est notre réal politique à nous. Eh bien, merci beaucoup Marie Platon, Mathilde Larère et Chloé Damé pour votre intervention dans ce podcast consacré à la chute de ces gens raconté par Cassius Dio. Vous avez pu entendre, pour accompagner le texte de Cassius Dio, un extrait de l'album Bloodline de Secession Studios, la piste Music for a Brutal Betrayal. Un peu plus loin, le prélude numéro 5 de Rachmaninoff, interprété par Yuja Wang, constituait le premier intermède musical, tandis que vous aurez sûrement reconnu, pour le deuxième, la chanson de Renaud, La Médaille, de l'album de 1994, À la Belle de Mai. Ce podcast vous a été présenté par Émile Gayoso, responsabilité scientifique en Cadane, mais il est temps de se quitter avec les dédales de Carole Beffa.